décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques.
Semaine 16, salut Manu.
Il n'y a pas de Manu.
Il n'y a pas de Manu. Mais où est Manu?
Il est malade. Il a mal à la gorge. Il agonise. On a acheté une pelle pour l'enterrer au fond des bois. Et donc, on va faire sans lui. Et nous avons, c'est un jour exceptionnel, deux invités. Donc, Marion et William.
Bonjour.
Qui vont nous parler d'écologie.
Climat, d'Alternatiba et de plein d'autres projets.
Voilà. Mais avant ça, on va faire notre petite revue de presse avec Nicolas qui va se lancer.
Salut Nico.
Salut Mag.
Paper Jam News, 5 raisons de choisir ou pas les logiciels libres par la rédaction.
Donc un petit article qui fait un peu le point sur pourquoi ou pas faire la transition vers le logiciel libre.
The Conversation, dans la famille innovation sociale, je demande les hackers, par Yannick Châtelain.
Un article un peu philosophique qui fait un peu le point sur qu'est-ce qu'un hacker et qu'est-ce que ça change en fait dans la société avec les lanceurs d'alerte en termes philosophiques ou autres. Donc c'est un peu intéressant, alors c'est un peu philosophique, c'est un peu long quand même.
Plus c'est long, plus c'est bon. Contexte, à Bruxelles, la guerre de la responsabilité des plateformes se prépare déjà par Camille Fortin, Laura Cayali.
Alors c'est un vieux serpent de mer qui traîne depuis très longtemps en fait. Il y a la directive e-commerce qui existe depuis quelques années qui dit que aujourd'hui les hébergeurs sont pas responsables des contenus et tout le monde aimerait bien revoir un peu ça, en particulier les politiques, parce qu'ils aimeraient bien que YouTube ou autres endossent un peu la responsabilité des contenus terroristes ou propagandistes qui peuvent circuler. Donc une grosse discussion qui joue y compris au niveau du Parlement européen.
L'informaticien, le logiciel libre a-t-il toujours la cote auprès de l'administration? Par Christophe Guillemin.
Eh ben on en parle encore, hein, ça revient régulièrement dans la revue de presse. Il y a beaucoup de municipalités, Barcelone, Montréal ou d'autres, qui ont fait le choix de passer au libre. Donc ça fait le point sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et essayer de voir est-ce que d'autres villes ou d'autres coopératives ou autres ont intérêt à aller vers le libre.
Numérama, 5 questions sur l'action de la Quadrature du Net contre les géants du web, par Julien Lausson.
Ça, on risque d'en entendre parler pour un petit moment. La Quadrature du Net lance une vague de procès vers les GAFAM, avec l'application de la RGPD le 25 mai, qui autorise maintenant les actions de groupe en France. Et donc, ils vont attaquer Google, Apple, Microsoft, Amazon et plein d'autres. Pour ça, ils ont besoin de vos mandats pour qu'ils puissent arriver avec un gros dossier en disant « Voilà, on représente tant de milliers de personnes. » Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site internet.
RGPD, hein, je rappelle que c'est le règlement général sur la protection des données. Next Impact, collecte de données via les sites de l'État. Avant les impôts, le précédent de l'Elysée par David Legrand.
Alors un joli fail qu'il y a eu récemment, c'est que si vous alliez payer vos impôts, bah, y avait du YouTube en gros qui était absolument pas contournable. Ça refait le point là-dessus et sur aussi ce qui s'était passé sur les sites de l'Elysée ou de l'Assemblée nationale qui sont remplis de trackers vers les États-Unis.
La Tribune, qui est Kat Borlongan, la probable nouvelle patronne de la mission French Tech par Sylvain Roland.
Donc une nomination qui va arriver prochainement avec une start-upeuse, entrepreneuse, French Tech, tout comme tous les mots qu'on aime bien nous, qui va être nommé donc, dans la mission French Tech qui est censée faire l'état de l'art de ce qui se passe en France en termes de numérique.
Marion, William, on s'est rencontrés à Alternatiba, où on a eu des stands, enfin au titre du logiciel libre, avec nos multiples casquettes. Et donc, vous êtes tous les deux dans l'organisation de cet événement.
Mais alors du coup, c'est quoi Alternatiba?
Grosse question. Alors Alternatiba, c'est un mouvement qui est né en 2013, en partant du constat qu'on en avait un peu marre de parler d'écologie de manière complètement catastrophiste et que c'était pas du tout productif, entre guillemets, parce qu'il s'agit pas de produire, mais ça servait pas du tout la cause écologique ni le climat de manière générale. Et donc, il y a une petite équipe de gens à Bayonne qui a décidé de monter un mouvement Alternatiba pour prôner et pour mettre en avant les alternatives qui existent au dérèglement climatique. Et donc c'est comme ça qu'ils ont commencé les premiers villages des alternatives où se réunissaient tout plein de personnes qui prônaient des alternatives dans le logement, dans les transports, dans la nourriture, etc. Pour faire très court.
Donc c'est une forme de festival, hein, un lieu où on a des stands avec des villages. Par thème.
Moi, c'est une des formes que ça prend, oui. C'est la forme la plus connue, on va dire. Sachant qu'Alternatiba signifie alternative en basque, donc on n'a pas cherché très loin.
Alors, tu dis que c'est une des formes que cela prend, mais alors ça prend quelle autre forme?
Bien, depuis, Alternatiba et ANV COP21 ont fusionné. Donc, ANV COP21, c'est Action non violente COP21. Le principe, c'est de faire de la revendication sous forme d'action. On cible quelque chose avec lequel on n'est vraiment pas d'accord et qui est climaticide. Et alors, on fait des actions, on fait des plaidoyers pour qu'ils changent d'avis et qu'ils changent change sa manière de travailler.
Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'action qui a eu lieu ?
Plus connue, on va dire, c'est celle de la BNP Paribas, qui finançait beaucoup de projets climaticides, donc des mines de charbon, des pipelines aux États-Unis, donc qui polluent énormément et qui, en plus, faisaient sortir des réserves des Indiens. Les activistes rentraient dans les banques pour prendre les chaises des banques pour leur dire bah, « Tant que vous continuez à financer ce genre de projet, bah, nous, on ne vous rend pas les chaises. » C'est de la réquisition de chaises, voilà, c'est le mot que je cherchais.
D'accord. Disons que c'est des actions de désobéissance civile qui médiatisent un sujet en choisissant des biais plus drôles ou plus comiques. En fait, c'est des campagnes sur des sujets climatiques, mais c'est des campagnes que peuvent mener des ONG de manière générale. Et il s'agit de rendre public un sujet en occupant l'espace médiatique, comme ça peut l'être par des réquisitions de chaises. En fait, chaque alternative local le décline un peu à sa sauce, ce qui fait que par exemple là à Paris, on a plusieurs projets qui sont en cours, on en a un où c'est une campagne justement contre la pollution de l'air, et on a fait une action très récemment où on a recouvert les statues de masques à gaz pour montrer que la pollution était là et que tout le monde en pâtissait, y compris les statues, et on a eu une couverture médiatique assez importante. Et une invitation également à la région pour rencontrer Madame Pécresse.
On va quand même parler un peu informatique parce que c'est quand même le sujet principal de nos podcasts quand même. Alors pourquoi un truc comme le logiciel libre a sa place à Alternatiba selon vous ?
Vaste question.
Mais posé comme ça, oui. Eh ben, nous, on a l'impression que le logiciel libre prône déjà un autre modèle de société et c'est vraiment pour ça qu'on essaye de le montrer aux autres. À l'intérieur d'Alternatiba, ce qui est assez compliqué, c'est qu'on cherche parfois un peu la facilité et l'efficacité. Parfois, les logiciels libres, il faut montrer à ces personnes-là que oui, c'est aussi efficace, mais il faut leur faire comprendre. Et donc, il y a des personnes très motivées qui essayent de faire comprendre aux autres.
Non, peut-être juste pour compléter, effectivement, comme dit William, quand on parle d'alternative, effectivement, nous, la brèche par laquelle on s'insère, c'est le climat. Et donc, climat et logiciel libre, a priori, dans un premier temps, on peut avoir l'impression que ça n'a pas de rapport, même si en creusant, en fait, on se rend compte que ça peut en avoir. Alors, pas forcément le libre, mais Internet, de manière générale, liens sont facilement tissables. Puisque, enfin, ne serait-ce que l'empreinte carbone d'Internet et des logiciels qu'on peut utiliser, c'est quelque chose d'assez important. Et c'est pour ça que pour nous, ça nous semble important de parler d'Internet. Et après, quand William parle de valeurs, c'est vrai qu'à Alternatiba, on part du principe que dans la société actuelle, le tissu social, par exemple, se désolidarise de plus en plus. Et qu'on a besoin d'un autre mode de fonctionnement qui est basé sur la solidarité, sur l'entraide, sur la convivialité pour surpasser un petit peu tous les défis auxquels on fait face et qui ne sont pas seulement climatiques. Et pour nous, le logiciel libre, ça colporte toutes ces valeurs qui sont des valeurs d'entraide, de soutien, même de gratuité, qui sont des principes qu'on prône.
Je me rappelle que vous nous avez aussi invité à faire une conférence sur l'obsolescence programmée, qui est donc aussi un moyen de répondre à votre problématique climat avec l'informatique.
Tu as totalement raison, et là peut-être qu'on touche à un des aspects qui sont les plus évidents avec l'obsolescence programmée, et donc la production de déchets et l'extractivisme qui est à sa source. Un autre point par lequel on pourrait arriver à Internet, c'est toute la question des médias libres. Et donc vous, le quartier dans lequel vous étiez, c'était s'informer, se divertir. Il y avait à la fois les logiciels libres, mais il y avait aussi les médias libres. Et on part aussi du principe qu'actuellement, la majorité des médias français sont contrôlés par des grands groupes qui tiennent aussi les ficelles de la finance et que pour nous ça garantit pas une actualité libre et indépendante, et donc on considère que ça va avec en fait pour nous. Après on peut avoir l'impression que c'est un vaste...
En tant qu'actionnaire de Dassault, je ne peux pas te laisser dire ça.
Mais on nous a trompés.
Non mais c'est vrai que maintenant avec Internet, les gens peuvent plus facilement s'exprimer sur des sujets que ne passent pas forcément dans les médias habituels et que ils sont diffusés à beaucoup plus grande échelle. Et donc Internet a apporté ça, chose qu'on n'avait pas il y a quelques années.
Oui, on centralise beaucoup moins l'information et le libre permet de décentraliser à peu près tout le fonctionnement d'Internet en général.
Ouais, il y a cette idée effectivement d'être maître de son informatique, de pouvoir en faire ce qu'on veut. Et donc c'est bien ce que tu disais Marion, hein, sur le fait d'être de cette question du tissu social et d'être acteur de sa vie. Par rapport au monde de l'informatique, moi c'est un sujet, l'écologie, que je trouve intéressant. Parce qu'il y a un point qu'on manque souvent, c'est la quantité de ressources nécessaires pour produire de l'informatique. Une puce qui fait tourner un téléphone ou un ordinateur, c'est tout petit, mais en fait, ça nécessite énormément de ressources, que ce soit en quantité d'eau, les produits chimiques, etc., etc., l'énergie. Et c'est vraiment colossal. Alors, j'avais vu des chiffres qui disaient qu'un ordinateur portable, par exemple, il fallait le faire tourner pendant 6 ans, 24 heures sur 24, pour réussir à égaler la quantité d'énergie et de ressources nécessaires pour sa construction, en consommation électrique. Donc on voit que changer d'ordinateur tous les 3 ans, au final, on va dépenser beaucoup plus de ressources en achetant l'ordinateur qu'en le faisant tourner. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le milieu de l'informatique, n'est pas du tout intégré. C'est-à-dire que le logiciel libre, il est libre, donc utilisé par des tas de gens, et notamment par des gros industriels, par des gens qui font des armes. Tout le monde a le droit et tout le monde l'utilise. Et cette question, elle est importante, parce que on montre que c'est une idée qui permet de faire des choses, mais qu'il faut le faire derrière. C'est-à-dire que chacun se l'approprie comme il veut.
Non, complètement. En plus, ça suscite des paradoxes. J'avoue que, nous, là, on intervient sur cette thématique. Après, Alternativa, clairement, si on voulait être complètement cohérent. Alternativa, c'est aussi un mouvement qui s'est construit sur la communication, sur une communication qui est ultra jeune, et donc qui passe par des réseaux tels que YouTube, tels que Facebook, et par une communication massive. Et donc, qui dit communication massive, dit utilisation massive d'ordinateurs, dit qui dit utilisation massive d'énergie, etc., etc. Et en fait, c'est vrai que Alternativa, c'est un peu construit sur l'idée que, après, on peut être ou pas d'accord avec, et chacun a sa posture individuelle derrière, mais sur l'idée qu'il faut agir rapidement, et que pour agir rapidement, il faut être efficace, et que donc, pour être efficace, il faut utiliser aussi des canaux de communication et des moyens, notamment communicationnels et avec tout ce qu'il y a d'énergie derrière, qui sont à notre disposition. Et c'est un peu ce que disait William en disant il y en a qui les utilisent, il y en a qui les utilisent pas. Même au sein d'Alternativa, les logiciels libres, alors on en utilise quelques-uns, mais déjà on sait très mal les utiliser. Et puis dès que ça pose un peu de problème, c'est vrai qu'on va aller à la facilité. Et Google est encore très présent, enfin, c'est clairement pas une priorité.
Mais du coup, cette année, par rapport aux premières années où vous fréquentez, vous avez une nouvelle optique. Maintenant, vous êtes dans la formation, puisque vous êtes venu nous voir pour mettre en place des formations pour permettre à des associations de connaître l'autre alternative numérique que nous on propose. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ces associations que vous avez envie de mettre en avant et à qui vous avez envie d'apprendre des choses de manière numérique?
Tu vas répondre, William, tu fais une drôle de tête.
Enfin, oui.
Carrément, mais déjà sur le pôle formation, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que, enfin, encore une fois, chaque alternative a sa logique, mais c'est vrai que nous, on a le besoin et l'envie de se dire, ok, effectivement, il faut agir très vite. Après, en fait, en parlant que aux convaincus, on va pas aller très très loin. Il faut quand même aussi parler aux personnes qui connaissent rien ou qui sont un peu sensibilisées et qui ont envie d'en savoir plus. Et que nous, en fait, on a un gros réseau d'assos à mobiliser pour pouvoir faire des formations sur des sujets que connaissent ces associations, parce que nous, on n'est pas du tout des professionnels, enfin, on connaît pas tous les sujets sur lesquels on convoque des personnes, mais justement, notre point fort, c'est de mettre en réseau toutes ces associations. Et même au niveau national, un des gros projets qu'il va y avoir, c'est le Tour Alternativa qui va se lancer en juin. Et ce qui va avec, il y a tout un volet formation qui est associé à ce Tour Alternativa dans l'idée qu'en fait, il faut qu'on se désolidarise du centre et que chaque base soit autonome sur plein d'aspects. D'où l'idée de ces formations. Et après, des assos à faire intervenir sur des sujets, je suis plein, sur tous les niveaux. Par exemple, Zero Waste, enfin, clairement, on bosse avec eux et on pourrait les faire intervenir. Non, mais enfin, je pense à des associations qui en plus sont déjà dans ce genre de démarche et qu'en fait, nous, on pourrait fédérer autour de formations fortes, que ce soit sur les déchets, que ce soit sur la gestion de l'eau aussi, sur la gestion de l'énergie. Enfin, Enercop, par exemple, on bosse souvent avec eux et c'est vrai que ça, on gagnerait à faire des trucs.
Enercop, qui a développé tout son système d'information en logiciel libre et qui fait partie des exemples voilà, d'une structure qui a fait un choix, voilà, un choix délibéré vers le libre et un choix vraiment très volontaire. Et je suis admiratif.
Mais et client. Et client.
Je suis sociétaire, s'il te plaît.
Et ce qui est très positif quand on dit qu'on veut toucher des associations, c'est que dans ces associations, il y a des militants. Et les militants, en fait, les associations ont tendance à utiliser plus facilement des logiciels libres pour fonctionner ensemble. À peu près, les militants les emmènent dans leurs autres associations parce qu'ils sont rarement dans une seule. Et ça, c'est assez pratique. Maintenant, il faut parfois les former même à des logiciels qui paraissent parfois simples. Mais à la fin, quand on compare leur utilisation ancienne du logiciel, on voit qu'en fait, il n'y a pas énormément de différence et qu'ils sont facilement appropriables. Et je crois qu'on compte aussi beaucoup là-dessus.
Et c'est vrai que c'est un des avantages du logiciel libre, c'est que vous pouvez le tester dans une association et comme il est libre, vous pouvez l'appliquer ailleurs sans avoir à l'acheter. Donc effectivement, une fois que la personne s'empare d'un logiciel, elle va l'appliquer partout.
Oui. Et on oublie que dans les services propriétaires ou les logiciels propriétaires, il y a des choses qui sont très bien faites. Ce serait mentir de dire que tout est moche et nul, mais la logique qui est derrière, c'est celle de l'enfermement. On peut faire un choix pour soi-même en disant « mais moi, je m'en fous, j'ai payé l'argent, je m'en fous de mes données, etc. » Mais dès lors qu'on doit être en échange avec les autres, notre choix d'enfermement enferme les autres. C'est-à-dire que, par exemple, Gmail, qui lit tous les mails automatiquement, tous les mails qui passent par Gmail sont systématiquement lus et analysés par les systèmes de Google. Bien, à chaque fois que j'écris à quelqu'un qui est sur Gmail, ça veut dire que le choix de mon correspondant fait que je donne ma propre correspondance à Gmail si j'ai envie de discuter avec cette personne-là. Et donc, on fait des choix pour soi, mais comme on est tous en relation avec les uns avec les autres, ça veut dire qu'on fait également des choix pour les autres.
Oui, dans Alternativa, on a eu à peu près le même genre d'exemple. On voulait tout mettre les dossiers au même endroit et c'était un Google Drive. Et le problème, c'est qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas de compte et ne pouvaient pas ajouter le dossier. Donc, il manquait plein de choses parce qu'on ne pouvait pas partager les informations directement. Mais on est en train d'installer un logiciel pour communiquer tous les Alternativas de France ensemble. Et on a pas mal discuté sur le choix du logiciel. Parce que le premier qui avait été cité, c'était Slack. Et on s'est dit, on va chercher une alternative à Slack assez rapidement. Et on est parti sur Mattermost. Mais maintenant, on est en train de discuter entre Mattermost et Rocket Chat. Voilà, on va voir lequel est le convient le mieux.
Et c'est, voilà. Mattermost est du logiciel libre et l'autre, je ne sais pas, je ne connais pas.
Oui, c'est aussi du logiciel libre.
Très bien, merci Nicolas, ce sera ta contribution du soir. Très bien, alors si on veut savoir ce qui se passe du côté d'Alternativa, où est-ce qu'on se renseigne? C'est partout en France.
Sur un terrible Facebook.
et sur alternativa.eu, en fait, qui est actuellement, comme l'actualité, c'est le tour Alternativa, c'est tour.alternativa.eu, que j'ai remarqué qui est bloqué parfois dans certaines entreprises. Il y a des pare-feux qui bloquent. Parce que
ce tour, c'est un tour à vélo, hein. C'est comme le Tour de France, oui. Mais avec moins de drogue.
Et beaucoup plus de kilomètres, ils sont à 5400 kilomètres quand même.
Bien, merci à vous deux.
Bah, merci à vous de nous avoir invités à cette magnifique tablée.
Non, merci à vous, c'était super sympa.
Merci pour l'invitation.
Et à bientôt peut-être.
À bientôt. Ciao.